Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Les mecs que je veux ken.
Chers auditeurs, chères auditrices, mes pommes de pin, mes pommes de terre, j'espère que vous allez bien depuis l'épisode avec Marie Saint-Filtre, pour lequel vous m'avez fait plein de retours positifs, merci beaucoup. Marie a fait des stories incroyables pour promouvoir l'épisode, c'était hyper généreux de sa part. De mon côté, ça va, c'est bientôt complet pour La Cigale, j'en reviens pas, c'est trop de bonheur. Ça m'a vraiment fait un bien fou de prendre des vacances à Noël, de partir 10 jours en Italie. J'ai fait un vrai break, 7 jours à Ferrare et 4 jours à Bologne, avant de retrouver la France et le froid glacial arctique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du chaleureux humoriste Gabriel Donzelli qui joue son premier seul en scène, c'est bientôt fini, à la Scala du 8 février au 22 juin, les jeudis à 19h30. Un peu comme dans Small Talk, l'émission combinée de David Castello-Lopez qu'on a aussi reçu, on a parlé de tout avec Gabriel, sauf de ce pourquoi il est connu. Gabriel Donzelli est le fils de Valérie Donzelli et de Jérémy Elkaïm. C'est lui l'enfant dans le film La guerre est déclarée. Mais il est bien plus que cela. Gabriel se fait connaître dorénavant grâce à son spectacle unique dans lequel il raconte comment il s'en est sorti de la maladie, de la tumeur qu'il a eue enfant. Vous entendrez au début notre attachée de presse adorée, Aurélia, qu'on a en commun. Et en fait, on a plein d'autres choses en commun. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute.
On n'est pas trop en retard, ça va?
Non, pas du tout.
Trop bien.
Je mets
c'est
aussi
ma nouvelle résolution de rentrée. Depuis bah depuis que on me demande d'être quelque part. Avant, tu sais, c'était pas fréquent et maintenant je veux faire attention à ça.
C'est hyper important.
J'adore ton pull. J'ai le même genre en un peu pyjama, bah un peu pas pyjama mais un peu la même matière.
Ça c'est un vieux pull genre Monoprix d'il y a 2000 ans. Et je le mets toujours dès qu'on rentre bien dans l'hiver parce que ça me met un peu dans la période de Noël.
Mais j'en ai un comme ça, tu sais, je l'ai mis pour combiner celui que j'avais. Je l'adore. C'est ma médecin.
C'est agréable, hein. Et ça, c'est des bijoux qui sont prêtés pour quotidien grâce à Aurélia.
Excellent.
Et résultat, je les mets pour quotidien, mais je les mets aussi pour le podcast, tu vois, pour les grandes occasions.
Tu sais qu'ils m'ont carrément offert des produits de beauté de
oui.
main, de cire et un gel douche.
Ah oui, ça
mais c'est des petits cadeaux qu'il y a dans les
mais
loges pour les invités.
J'adore. Du coup, je veux, j'ai pas racheté de jet douche.
Ouais, mais en plus, ils durent longtemps, les produits Horace que j'avais récupérés quand c'était invité. Je les ai toujours à la maison, ouais.
Et la petite bougie.
Ouais, c'est chouette. Non, c'est cool. T'as kiffé ton expérience? T'as bien aimé?
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
J'avais très peur. C'est très bizarre de s'entendre.
On n'est pas obligé le casque, si tu préfères, ou je peux le baisser.
Non, mais...
Non, c'est vrai, ça te va.
Peut-être le baisser un tout petit peu, parce que je m'entends... Si, c'est bien.
Non, là, mais... c'est bon.
Ouais, parfait. Parfait. Non, quotidien, c'était dément. C'était très particulier parce que. Enfin, pour moi, c'était déjà une petite boucle qui se bouclait parce que j'étais stagiaire là-bas en troisième.
Ah.
Et donc je me suis un peu fait un check à moi-même, quoi. Il y a un peu un truc de. J'arrive et je suis invité aujourd'hui, quoi. Et donc, c'était hyper agréable. Et en vrai, c'était hyper good. J'étais très stressé.
Ouais.
Mais j'étais bien entouré. Il y avait... Du coup, Aurélie, mon attaché de presse, et mon Timothée, mon co-auteur, et on reste hyper good vibe.
Est-ce que t'aimes l'expérience de la promo? C'est un truc au contraire que tu cherches, t'as envie, t'aimes parler du spectacle ou
je
tu redoutes?
Je découvre. C'est une bonne question. Je découvre. Je vais voir si j'aime bien ou pas. C'est très dur, mais je crois que j'aime bien. C'est dur de savoir. En fait, c'est toujours dur de devoir expliquer pourquoi t'as fait les choses. C'est-à-dire que quand tu les fais, c'est marrant, mon co-auteur, j'en parle pas beaucoup parce qu'on travaille ensemble, mais lui, il pense pas du tout à pourquoi on fait les choses quand on les fait. Et moi, j'ai un peu un truc où je matrixe et je réfléchis toujours artistiquement à qu'est-ce que ça veut raconter quand on écrit un truc. Et du coup, moi, je passe des heures à expliquer, par exemple, en soirée ou un truc, pourquoi on a fait telle vanne ou on a expliqué telle chose de telle façon et tout. Et lui, il me dit, oui, c'était juste marrant, en fait. Enfin, il y a un truc où. Et c'est vrai que la promo, du coup, ça m'oblige encore plus à réfléchir à pourquoi j'ai fait les choses, et c'est un peu bizarre. Enfin, l'exercice n'est pas tout de suite évident, en fait. Et voilà, après, c'est toujours sympa de venir parler de ce qu'on fait et d'avoir la parole. Moi, je trouve ça toujours agréable d'avoir la parole.
Bon, bah, je t'écris un petit poème, Gabriel.
Oui, il paraît.
Cher Gabriel, nous nous sommes rencontrés il y a un an à peu près quand tu étais venu voir mon spectacle à la Nouvelle Scène. Tu démarrais tout juste dans le stand-up et découvrais les plateaux de stand-up parisien. En quelques mois, tu as fait une ascension fulgurante, puisque tu joues désormais au Petit Palais des Glaces. Beaucoup d'humoristes commencent par la Petite Loge. Toi, c'était directement dans une salle de 100 places, directement produit. La couverture presse est énorme. Je suis très heureuse pour toi, mais j'ai lu les critiques et je ne suis pas forcément d'accord. Elles parlent souvent d'une quête d'apaisement via la scène. Or, pour moi, il y a encore énormément de colère dans ton art. Tu en veux à la maladie, aux médecins, à tous ceux qui parlaient à ta place. Et c'est toi maintenant qui veux être écouté, qui détient ton propre diagnostic. De ta colère se dégage une force, une assurance, la certitude d'avoir quelque chose à raconter. Malgré ce que tu nous révèles de hautement personnel, comme la masturbation, son impossibilité puis son addiction, tu ne te cantonnes pas au champ de l'intime, tu fais un show, tu déploies toute ton énergie et on est beaucoup plus proche d'un Baptiste Le Caplain que du stand-up américain torturé ou tout destructeur. Au contraire, en fait, tu veux t'accepter avec toi-même, pas tant te réconcilier avec les autres. Tu ne fais toujours pas confiance totalement aux adultes, on dirait, trop associé à la voix du mensonge, comme cette amie de ta mère qui te dit à dos que tu es beau et que tu tentes d'embrasser. La libération, c'est que c'est toi l'adulte aujourd'hui et que la scène te donne du pouvoir. Est-ce que tu arrives à en profiter, Gabriel ?
Ben, merci. Merci beaucoup, c'est un beau texte.
C'est une interprétation.
Ah ouais. Non, mais je trouve ça très juste. Mais c'est marrant. Tu vois, c'est marrant. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était par Cody du Wishing Light.
Ouais.
Où j'ai commencé aussi, en fait. Et mm-hmm. où il t'a mis en exemple comme les personnes ayant réussi et en étant partie de là et tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai aussi appris un peu à découvrir ton travail. Et j'ai commencé là-bas. J'ai commencé dans cette petite salle du 13e. Qui s'appelle le Tekawa, dans lequel j'ai fait des représentations avec les gens qui allaient, qui revenaient, des 20 à 10-20 personnes, de la famille, les SDF qui reviennent, les mamies qui parlent, les trucs. Et donc en fait, ça m'a vachement appris parce que c'était dur. C'est comme ça que j'ai commencé.
Oui, ça t'a pas tout de suite été projeté dans cette salle de 100 places.
Non, je pense que j'aurais jamais fait, en fait, sinon. J'avais besoin de commencer en. Et c'est d'ailleurs drôle parce que maintenant, ce qui me fait peur, c'est les grandes salles. Moi, j'ai commencé dans l'intime. J'ai commencé dans les petites salles. J'ai commencé justement à monter sur scène en racontant ce truc-là. Ça faisait pas forcément rire. Il y avait un truc de proximité énorme. Et donc maintenant, de voir de plus en plus grand. Les salles de plus en plus grandes, le public de plus en plus nombreux et tout, ça m'impressionne plus que l'inverse, en fait. Et c'est vrai que du coup, je me sens de plus en plus écouté. J'ai pas encore acquis l'aisance complète de « on m'écoute » et d'accepter qu'on m'écoute. Mais ça a été un vrai travail que j'ai fait notamment avec ma metteuse en scène, Valentine Katzefis, qui s'appelle.
Et ouais, une comédienne.
Une comédienne, mais qui, je crois, te connaît.
Ouais, je la connais de nom aussi, loin, ouais.
Enfin, elle m'a parlé de toi aussi. Mmh. Et une comédienne et prof de théâtre et incroyable metteuse en scène. En fait, j'ai découvert ça, qui m'a vachement appris à connaître mon rapport au public. Qu'est-ce que c'est qu'arriver, avoir des gens qui vont t'écouter, de voir leur raconter une histoire, qui plus est là, cette histoire intime, dans laquelle on a mis une énormément de part de fiction, mais qui correspond aussi à mon histoire, parce que c'est très inspiré de ma vie. Et comment ils vont m'écouter, comment je vais leur raconter, comment il ne faut pas que ce soit récité, mais qu'en même temps, c'est du par cœur, donc il faut que ce soit naturel. Et comment avoir cette aura-là ? Cette aura que je n'ai pas encore acquérée, parce que je viens de l'avoir, en fait. Je viens de comprendre que je pouvais parler et qu'on me donnait la parole, en fait.
Et donc, Valentine, c'était ta prof de théâtre ?
Non, Valentine, c'est une amie de la famille qui m'a rencontrée quand j'avais 8 piges, et j'ai un peu grandi avec elle aussi. Et on s'est un peu perdu de vue pendant un an, là, il n'y a pas longtemps, et on s'est revus. Et j'ai commencé à écrire, et je lui ai dit, tu veux pas me donner des petits conseils, m'aider ? Et en fait, de fil en aiguille, on s'est plus lâché, comme avec mon co-auteur. Et elle est devenue ma metteuse en scène. Complète. Mmh. Et maintenant, chaque réus fait avec elle quand elle bosse pas, chaque moment. Enfin, elle est très très présente, quoi.
Parce que donc, dans ton spectacle, tu vas jusqu'à la période. Enfin, tu retraces un peu chronologiquement enfance, adolescence et le bac empoche le début des soirées jeune adulte.
Ouais.
Mais donc, pour reprendre à partir de ce moment-là, après ton bac, est-ce que tu fais une école de théâtre, une école d'écriture, ou tu te lances directement?
Ouais, je me lance direct. En fait, j'ai fait du théâtre. C'est marrant, le hasard fait que j'ai retrouvé ma première prof de théâtre hier au cinéma, hier soir. Et j'ai pu lui dire un truc de. Enfin, je voulais lui écrire, je la retrouvais plus. Et c'était ma prof de français, une des premières profs qui m'a un peu protégé et tout, et qui m'a appris le théâtre au collège. Et c'est marrant, comme j'avais justement pas cette aisance là. J'étais très gênée parce que pas confiance en moi, parce que je me voyais de loin et enfin j'avais un truc avec le corps et la présence qui allait pas du tout. Et mais c'est comme ça que j'ai appris le théâtre et que j'ai commencé un peu à aimer ça
au collège avec cette prof de français.
Avec cette prof de français.
C'était dans quel collège?
Le Jean-Baptiste Poquelin, dans le premier.
OK, dans le premier arrondissement. Ouais, dans collège public.
Public, complètement public.
Et ensuite tu fais après le lycée, après ton bac en poche?
Après mon bac en poche, je fais une école de cinéma.
OK.
Qui s'appelle l'ESEC, dans le 12e.
Mm-hmm.
Et suite à cette école-là, je travaille sur le film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions, dans lequel je fais à peu près tout. Parce que je lui envoie un mail et il me répond et je suis hyper touché. Il m'offre énormément de taf. Et je deviens son assistant perso et je deviens un peu assistant mise en scène. Et en même temps, je fais de la régie et en même temps, je joue dedans. Donc c'était un peu une de mes premières. J'avais déjà joué un peu dans les films de ma mère quand j'étais petit. Mais pareil.
Je l'ai vu, il est super ce film. T'es là, la scène de la réunion, c'est ça au tout début, quand il pitch le
tout
projet.
À fait.
Ouais.
Je suis le stagiaire qui met la clé USB.
Ouais, il est super ce film.
Bah, ça me fait trop plaisir. Moi, j'adore ce film. Aussi parce que c'est mon premier vrai travail dans le cinéma, et surtout parce qu'il me touche vachement. Et donc, ça a été ma première grosse expérience de boulot. Suite à ça, j'étais très perdu. J'ai fait des petits boulots. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à écrire un film. Qui est maintenant le spectacle, mais qui à l'origine était un film.
Mm-hmm.
Parce que j'ai commencé à mettre des mots dessus, en fait. Tout s'est à peu près groupé. C'est-à-dire, quand j'ai fini l'école, quand j'étais un peu libéré de tout ça, même si l'école supérieure, c'était dément, mais
c'est vrai que j'avais. Ça dure combien de temps, l'école, les sexes?
C'est 3 ans.
Ça s'appelle l'ESEC?
Non, ouais, l'ESEC. L'ESEC, c'est une
école de commerce. Ouais.
Ouais, une école de commerce.
D'accord. L'ESEC, ça dure 3 ans.
Ouais.
Et au sein de l'ESEC, j'imagine que vous réalisez des courts-métrages, c'est ça?
Il y a la première année qui a été bouffée par le Covid, dans laquelle on a été un maximum en Zoom et tout. C'était très compliqué vers la fin d'année, mais dans laquelle j'ai rencontré les gens avec qui je suis venu aujourd'hui. Je pleure pas, hein. C'est un traitement et donc j'ai des larmes. Non, et ça m'a appris. Donc on apprend un maximum, on fait de la théorie au début, dans la première année. Toujours dans le but de faire du cinéma, en fait. Moi, j'avais envie de faire du cinéma à l'origine. Mais j'avais enfoui en moi la scène. Je sais que c'était un truc qui me plaisait, mais je m'étais comme enfermé dans l'idée que c'était pas pour moi et que j'étais pas prêt pour ça et que c'était pas mon truc, en fait. Parce que j'étais pas bon ou parce que, enfin, tu vois, toujours un truc de conscience en soi. Mais je sais qu'au fond de moi, ça m'intéressait toujours. Ça me faisait vraiment envie. Et je m'étais tellement convaincu que j'étais pas fait pour ça que je m'étais dit que finalement, je voulais faire du cinéma, et puis les envies ont grandi avec moi. Et donc, première année, on étudie la théorie du cinéma, l'analyse de films et tout ça. La deuxième année, on fait des films en groupe. Chacun, on tourne et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé un peu à jouer dans certains films. J'ai commencé un peu à réaliser aussi, à réécrire les scénarios, parce qu'on me propose des scénarios, puis je les ai réécrits. Enfin, c'était un vrai travail. Et la dernière année, c'était complètement autre chose, parce que j'ai décidé de faire du documentaire. Parce que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de découvrir un peu ce monde-là que je connaissais pas trop, et c'était la période où j'écrivais sur moi. Donc ça me faisait un peu envie en même temps de comprendre comment on pouvait jouer avec la réalité et comment on pouvait la traiter, en fait. Et c'est une année dans laquelle j'ai pas travaillé du tout. Parce que, en fait, c'était hyper intéressant et tout ça, mais c'était pas mon monde, parce que c'était en fait, le documentaire, c'est carrément une autre, limite une industrie dans l'industrie, quoi. Il y a un truc où c'est un truc très précis, j'étais pas passionné de documentaire, et très vite est arrivé le film de Michel Gondry. Donc, en fait, je me suis mis à bosser sur le film, et après, j'ai continué l'écriture du mien, qui s'appelait Déjà, c'est bientôt fini, et dans lequel je me mettais sur scène. Et c'était l'histoire d'un mec sur scène qui raconte sa vie, avec un micro et tout, genre stand-up. Et on voit tout le fil de sa vie pendant qu'il la raconte.
Et ton co-auteur, tu l'as pas rencontré,
À l'école.
Dans l'école de cinéma, d'accord. Et lui, il dirigeait à être scénariste?
Ouais, lui, il a toujours aimé écrire. On s'est rencontrés comme ça, en fait. Au début, on se parlait pas du tout, parce qu'on n'était pas dans la même classe, parce qu'on était dans différents milieux de l'école. Et finalement, il est allé dans le groupe d'une amie à moi, et on s'est mis à discuter un peu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était cool, qu'il aimait écrire, qu'il était fan. Déjà, c'était le seul avec qui je pouvais parler de Judd Apatow et de Funny People et des comédies américaines qui m'ont bercé enfant. Et j'étais là, putain, ça me fait plaisir d'avoir une discussion avec un mec comme ça qui connaît mes références. Et on est devenus de plus en plus potes. Et en fait, j'ai demandé à mon ami qui bossait sur mon film à l'époque est-ce qu'il est bon, parce que sa passion c'est le casting et l'écriture. Et est-ce qu'il est bon en casting? Elle m'a dit oui. Il est arrivé. Et en fait, il est arrivé. Je lui ai dit, bah vas-y mec, si ça t'intéresse, tu m'aides à faire le casting et tout. Il m'a dit grave. Je lui ai envoyé le scénario. Première réunion de casting, c'était vraiment à l'arrache. On était entre potes, on sortait d'école, on faisait on n'avait pas de thunes. Enfin, j'ai un de mes meilleurs potes qui a fait une cagnotte pour mon anniv pour que je puisse faire le film, mais c'était vraiment rien du tout quoi.
Enfin, parce que tu veux dire, vous n'étiez pas produit pour faire une demande de financement pour le film?
Non, on s'est dit on y va à l'arrache, je voulais faire le film et c'est peut-être aussi ce qui nous a brusqué, mais pas que, c'est moi qui n'ai pas voulu le faire en fait au final. Mais en tout cas, Timothée est arrivé, il s'appelle Timothée donc Furini, il est arrivé à la réunion avec un dossier et le scénario imprimé. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Il me dit, ah j'ai pris des notes au stabilo. Il me dit, mais ce mec a beaucoup trop bossé.
Ouais, c'est bien.
Et il m'a dit, oui, parce que pour moi, c'est un peu l'histoire d'un mec qui apprend à parler. Et ça m'a vachement touché. Et c'est la première fois que quelqu'un comprenait mon histoire comme ça. La première fois que quelqu'un mettait des mots justes sur ce que j'avais écrit par rapport à ce que j'avais vécu. Il y avait toujours cette trame de on suit l'enfant grandir. Et c'est un truc que je trouve hyper juste et très beau sur le fait d'apprendre à parler dans sa vie, quoi. Que notre vie, c'est d'essayer de... Et moi, d'autant plus, parce que la perte du langage vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de... Je parlais plus, moi, pendant un temps. Enfin, je parlais, mais j'étais pas muet du tout. Mais c'est une image... Enfin, j'arrivais plus à communiquer. Et ça m'a touché. Et je lui ai dit, mais mec, c'est trop beau. Et il a eu d'autres idées hyper intelligentes. Et je lui ai dit, mais viens, on écrit. Parce que comme il y avait des passages stand-up, des passages... Et je lui ai dit, viens, on écrit ensemble un truc. On a continué de le faire, mais il s'occupait surtout du casting. J'ai pas voulu faire le film par manque de financement et surtout de confiance en moi et de légitimité. Je me sentais pas légitime. Peut-être parce que ma mère avait fait un film. Mais je me sentais pas légitime de faire un film. Et de fil en aiguille, on m'a...
Tu trouves une autre forme artistique.
Ouais, exactement.
Ouais.
Exactement. Et le jeu, je savais que le jeu m'attirait, mais je... Parce que il était question que je joue dans le film. Mais pareil, confiance en soi absolument éteinte. Et est-ce qu'il fallait, est-ce que j'étais bon, est-ce que c'était mon truc, est-ce que...
Puis peut-être parce que tu cherchais aussi que la comédie soit au premier plan.
Ouais.
Et peut-être qu'au final, dans le seul en scène, dans le one man show, il y a un truc où en fait les blagues, ça prend la place. Ouais. Alors que dans un film, l'image, on évite, même si c'est drôle, bah il y a vite une émotion, une mélancolie, même funny people, même si c'est la vie d'humoriste, en fait c'est tragique.
Ouais. Le film, c'était un peu des deux, mais le film était plus triste que le spectacle. Le film était même un peu trash. Mais parce que c'était en fait, je pense que le film était un premier jet de libération où j'ai mis des mots d'abord sur ce que j'ai fait et après il restait à chercher la forme. Et là, on m'a conseillé de monter sur scène. La famille qui m'ont dit, mais c'est peut-être ton truc. Et j'ai écrit pour la scène et j'ai pris des notes. J'ai d'abord lu à mes cousins qui ont trouvé ça éclaté parce que c'était un peu trop recherché. Je venais du ciné, je venais de l'école de ciné donc j'étais pas encore. Et j'ai réécrit. Puis j'ai fait une scène, deux scènes, trois scènes. Puis j'ai fait quatre scènes par semaine. Et Timothée est venu me voir à genre la 3 ou 4e scène. Et j'étais allé en comedy club d'abord avec lui avant. Pour me préparer, j'étais allé beaucoup dans les comedy clubs avant de jouer. Pour comprendre. Et je suis allé au Jardin Sauvage avec lui, qui est un comedy club dans le 6e. Parce qu'avant c'était une péniche, mais c'est plus le cas. Et il m'a accompagné. Il connaissait tout le monde. Et en fait, je me rends compte que je découvre de plus en plus de trucs sur lui. Donc il écrit trop bien. Il passe sa vie en comedy club. Il adore Funny People. Donc je me dis, mais... Et en fait, on est de plus en plus potes. Et il me présente un mec qui est stand-upper, qui me parle du Wishing Light. Et je vais jouer au Wishing. Et Timothée vient un jour, il me dit, il y a des trucs pas mal. Et je lui dis, mais viens, tu veux pas m'aider un peu à écrire pour le coup pour le stand-up? Il me dit, ouais, pourquoi pas. Et là, j'ai eu l'opportunité de jouer 20 minutes. Et on s'est enfermé, il m'a donné 3 dates, et on s'est plus lâché. Et depuis, c'est mon meilleur ami.
Et donc, t'as vu, et donc, il connaît plein de trucs sur les comedy clubs. Toi aussi, tu t'es passionné pour le stand-up. T'es aussi allé beaucoup voir de stand-up.
Ouais, moi, c'est marrant, tu parlais de Baptiste Le Caplain. Moi, c'est mon idole. Enfin, c'est un de mes idoles du stand-up depuis très longtemps. J'étais quand même assez fan aussi de la scène et des gens. Moi, je regardais beaucoup toute la bande de Kian m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup touché. Baptiste, Farid, enfin tout le stand-up français, je me suis intéressé à tout en fait depuis longtemps, et d'autant plus avec Timothée qui m'a fait découvrir des trucs. Et c'est d'ailleurs un choc de génération et de culture plus, pardon, que de génération. C'est-à-dire que quand on a commencé à écrire, moi je suis arrivé avec mes références un peu arty quand même du ciné, même si j'adorais l'humour et qu'on avait des trucs en commun et tout. Et il est arrivé, il m'a dit, tu sais, Franck Dubosc est un génie. Je dis quoi? Et en fait, il m'a montré des spectacles et j'ai pété mon crâne de voir à quel point c'était varié. et à quel point il y avait de tout, et à quel point c'était démentiel, en fait.
Ça t'a émancipé d'une culture familiale qui était plus Télérama, quoi. C'est ça?
Complètement.
Sauf que l'humour, c'est en train de devenir Télérama.
Ouais, c'est un peu ça.
Mais ça l'est pas encore tout à
ça
fait.
Ça l'est pas. Non, ça va, il y a encore un peu... C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé énormément. Avant, j'ai l'impression qu'il y en avait moins. Aujourd'hui, ça devient une énorme porte ouverte où il y a de tout, pour le coup. Enfin, et du coup, forcément... On en parle plus et...
Oui, non, bien sûr, c'est juste que je vois le milieu dans lequel t'as grandi et qui peut ressembler au mien, et c'est sûr que le sacro-saint film d'auteur,
bien sûr.
Il y a quelque chose de vite sale et poussiéreux dans la salle de théâtre, de comédie club.
Heureusement que j'ai découvert Will Ferrell, parce que sinon j'aurais regardé Godard toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est ce qui m'a libéré, c'est justement de connaître Jack Black, Will Ferrell, enfin tous ces mecs-là. Jim Carrey, j'en parle même pas. Je parle d'Américain parce que ça m'a beaucoup plus...
C'était ça ton influence?
Ouais, au début, vraiment, j'aimais le burlesque. J'ai souvent dit que j'étais éduqué par des mecs qui se prennent des portes. C'est-à-dire que vraiment, j'ai passé ma vie. Et en France, c'était Pierre Richard dans les films de Weber qui m'ont vachement inspiré. Donc j'ai eu ce truc-là burlesque toute ma vie, mais j'en faisais rien. Artistiquement, j'avais rien, ça m'inspirait, mais dans la vie, ça m'inspirait pas dans l'écriture, j'arrivais pas, et aujourd'hui j'y arrive. Justement, c'est ce qui me touche, c'est que ça a été la liberté de pouvoir exploiter artistiquement les connaissances que j'avais, de l'humour, ou de. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y avait un truc.
Mais si dans le film, tu t'écris pour toi ce rôle, tu t'es pas dit à un moment, tiens, je veux aussi faire, après l'école de ciné, une école d'acteur, faire les concours d'école?
Si, mais j'étais un peu lassé, ça faisait 15 ans que j'étais à l'école.
Et tu veux dire le collège et le lycée?
Ouais, si on compte tout. Non, parce que j'ai enchaîné bac, école supérieure. Donc, jusqu'à 19-20 ans, je n'ai été que enfermé dans une classe à l'école à faire des cours. Je sais que les cours de théâtre, c'est pas du tout ça.
Ouais.
Mais l'idée d'avoir
un emploi
du
temps... Tu voulais pas faire de longues études supérieures?
Je pouvais pas. J'avais besoin de partir. J'ai tout fait un peu. En vrai, ouais, j'ai tout fait. L'emploi du temps régulier, les heures en classe, les profs, Même si je sais, parce que j'ai beaucoup côtoyé une année du conservatoire qui vient de finir, la section 2022, avec qui je suis très ami, avec plein de gens, et je suis hyper proche de plein de mecs, et ça m'a forcément passionné, intéressé, et j'ai d'ailleurs découvert le théâtre aussi avec eux. Mais je me suis mis à leur place en me demandant est-ce que... Et en fait, non, je peux pas, j'ai un truc où j'ai besoin de faire tout de suite. Là, en sortant, j'ai quand même eu cette énergie-là de... Et la scène m'a aidé aussi parce que j'en avais marre de dire les choses et de pas les faire, tu sais, de se dire qu'on... Bon, allez, on écrit un court-métrage, on le fait, puis en fait, on attend des mois, et puis en fait, c'était tout de suite là maintenant.
Oui, une façon plus rapide.
Ouais. Parce que même si c'est pas bien, au moins, on y va et on... Et au pire, ça prend 2 ans de... On fait, mais c'est pas 2 ans d'attente. Mmh. Et j'avais très peur de l'ennui et de la déréliction et de tous ces trucs-là qui me rapprochent de rien faire, en fait, et ça me stresse un peu.
Qu'est-ce qu'il y avait de plus trash dans ton scénario par rapport au spectacle?
Des scènes où je me faisais c'était visuel, donc je filmais les trucs, je les racontais pas avec non seulement le prisme de l'humour, je me faisais tabasser. J'avais des trucs où je filmais le collège vraiment de manière violente, quoi.
Ça, c'est des scènes réelles, ça en parle pas trop dans le spectacle?
Non, ça en parle pas beaucoup dans le spectacle, je ménage un peu quand même.
Ça a été très difficile d'évoluer avec des adolescents de ton âge?
Ouais, c'était très très violent. Mais j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était du harcèlement, que c'était violent, tu vois. C'est-à-dire que, et puis je pense que c'est complètement universel, le nombre de gens qui m'ont dit « je me suis fait harceler au collège », le nombre de gens qui en parlent. Je crois que même le Baptiste, il a fait une vanne là-dessus sur je jouais le poteau.
On disait pas trop harcèlement. C'est vrai que c'est tout récent qu'on se dise ah tiens, en fait, ah ça, ah oui, j'étais harcelé, ah ouais, si,
c'est
en
des
fait
mots
c'était du harcèlement.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Mais en fait, quand tu descends à la cour d'escalier et que des mecs viennent te voir en disant je vais te niquer toutes les marches, et après ils font non, je rigole, et ils recommencent le lendemain, il y a un moment où c'est un peu du harcèlement con.
Ouais.
Et donc voilà, après aujourd'hui j'en parle avec le sourire parce que c'est marrant, mais j'ai un ou deux potes du collège qui étaient bienveillants à l'époque et que j'ai retrouvé aujourd'hui. Et des mecs, il y en a un qui est devenu rappeur, qui est adorable, il y en a un qui est devenu DJ, enfin si tu veux, c'est marrant comme j'ai appris que c'était vrai le truc de t'auras ta vengeance sur la vie. Mais c'est vrai que non, c'était trash. Je ménage beaucoup dans le spectacle, beaucoup, beaucoup. J'avais des trucs où du coup, parce que forcément t'es pas mis à ta... Moi, si je suis arrivé au collège, je comprenais pas qui j'étais. C'est-à-dire que pendant la primaire, c'était horrible et tout, mais en arrivant au collège, j'ai compris que j'étais différent parce que les autres me le criaient tout le temps. Mais sauf que je ne savais pas pourquoi j'étais différent. Parce que moi, ça faisait partie de moi. J'avais un truc où j'étais très différent, mais sans le savoir. Et donc, j'ai commencé à j'ai fait une analyse en CE2, et puis là, au collège, ça s'est intensifié. Et en fait, j'ai mis de plus en plus de mots, j'ai fait de plus en plus d'analyses, de travail pour comprendre tout ça. Mais du coup, ça a fait un mélange un peu trash parce que...
Ça te donnait une maturité supplémentaire.
Exactement. Et du coup, en même temps, quand t'arrives et que tu sais pas où te placer, tu te mets à raconter parfois des petits bobards, parfois des trucs. J'ai même été méchant avec quelqu'un un jour parce que j'étais perdu, en fait. Et je pense que c'est la cruauté du collège, c'est-à-dire que c'est on sait pas où se placer et la loi du plus fort. Et donc parfois, ça fait des mélanges un peu horribles. Et donc tu te mets à mentir, puis ça blesse quelqu'un qui est machin. Et puis oui, forcément, tu
t'avais menti sur quoi ?
Tu te fais taper. Je me souviens d'une histoire où j'étais très énervé après une surveillante qui s'était, selon moi, mal comportée. Puis j'avais un peu insulté, puis on avait cafeté. Et j'avais menti en disant que c'était pas elle, mais que c'était quelqu'un d'autre. Et donc je m'étais fait tabasser parce que j'avais dit que c'était quelqu'un d'autre. Enfin bon, le collège, quoi, c'était vraiment une sale époque.
Et en même temps, c'est peut-être la partie réac en moi, mais je sais pas comment on peut se confronter à la violence du monde. C'est-à-dire que ouais. Peut-être que si tes parents t'avaient mis dans, je sais pas, un collège privé ou hyper... Peut-être qu'au final, t'aurais voulu de la vraie expérience.
Et mes parents m'ont pas forcément beaucoup aidé, parce que je pense qu'ils étaient perdus aussi. J'ai eu des mauvais conseils avant d'y aller. Ils ont tenté, je pense, de me protéger... mais pas forcément de la bonne façon, je pense. Mais c'est normal, tu vois. C'est pour moi, je pense qu'ils ont constamment vu une vulnérabilité chez leur enfant. Tu vois, je suis tombé malade à un an, donc forcément, il y a un truc où tu te dis que je traversais la rue, ça les faisait peur. Ça leur faisait peur, mais c'est normal, tu vois.
Et c'était quoi leur conseil, alors ?
C'était très... paradoxal, il fallait que je sois discret, en même temps il fallait que je sois présent, il fallait que je sois bon, en fait il fallait que je sois comme les autres, mais alors que tu vois, mais c'est marrant, je pense que c'était plus les conseils de mais j'en parle dans le spectacle, des conseils de mon père. Je dis, j'aurais pas dû écouter les conseils de mon père, et c'est un truc où on essaie de mettre quand même de la fiction dessus, mais c'est un vrai truc. Quand c'est que je pense qu'il a dû avoir, enfin c'est normal, tu vois, à mon avis il y a eu de l'appréhension du collège et donc une surprotection et une suranalyse. Je pense qu'ils auraient juste dû me lâcher et que je gère tout seul. Parce que sinon, tu vois, à la limite, je me prenais des baffes, mais au moins, tu vois, j'apprenais. C'est dans Max et Lily, il y a un truc dans Max et Lily où Lily se fait harceler. Elle se fait genre harceler par un mec et tout. Non, Max et Lily, tu sais, c'est les petites pastilles pour enfants.
Ah, je l'ai pas.
Tu connais pas Max et Lily ?
Ah, mon Dieu,
Max et Lily, très marrant. Non, je pense que c'est. Mais non, parce que le cousin de ma mère faisait les dessins, donc ça date d'il y a longtemps. Max et Lily. C'est des petites pastilles un peu éducatives. C'est deux frères et sœurs qui vivent avec leurs parents et à qui il arrive plein de mésaventures. Donc, t'as Max et Lily vont chez le médecin. Max et Lily, le père de Max et Lily est au chômage. Le cousin de Max et Lily a pris de la drogue. Le cousin l'oncle de Max et Lily est en prison. Et t'en avais un, Lily se fait harceler. Max ne pense qu'aux Zizi. Enfin, c'était des trucs d'enfants, tu vois. Mmh. Et d'adolescents, de préadolescents. Et Lily se faisait harceler. Et à la fin du livre, la conclusion, c'était les mecs t'harcèlent tellement. Et le frère lui dit, c'est parfois ce qui marche, c'est un bon point dans la gueule, quoi. Mmh. Et elle se venge en tapant, et c'est pas bien, mais au moins elle s'est vengée et elle s'est protégée.
Parce que t'imagines, tu te dis que ton père t'a plus ou moins conseillé la discrétion, et aujourd'hui tu montes sur scène pour parler de ça. Donc c'est peut-être.
Et je me sens vivant. C'est-à-dire que c'est le truc le plus. Non, grave.
Ouais, au final, ne pas s'en cacher, c'était ça qui t'a aidé, c'était de voir et de dire. Et après, dans ton spectacle, tu parles beaucoup de l'expérience de la séduction avec les filles. Ça aussi, c'est
un gros dos.
Un gros dos. T'arrives en retard là-dedans, parce qu'au début, donc tout le début du collège et en sortant de l'enfance, t'es totalement déconnecté de
Exactement.
Ça. Et puis à un moment, ça se révèle à toi, et à un moment, t'as envie de plaire aux filles. C'est un déclic qui arrive quand, genre quatrième, troisième ?
Seconde.
Ouais, seconde.
Voire première.
Et ça, c'est une expérience heureuse. C'est la bonne façon de sortir de soi.
C'est vrai que dans le spectacle, c'est très joyeux, cette histoire-là. Mmh. J'en chante d'ailleurs, j'ai carrément un truc où c'est la libération. C'est arrivé en première, les premières envies de plaire, les premières envies de... Mais c'était très catastrophique, parce que c'était la maladresse totale. Je découvrais ça. En fait, c'est comme si... Mais même aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, je commençais à peu près à comprendre ce que c'est. Que d'être en couple, que d'être en relation. Là où mes potes en ont déjà eu une ou deux, tu vois. Mais c'est un retard pour le coup que j'ai accepté aujourd'hui et qui me correspond, en fait. Donc en fait, je pense que quand on aime aussi, on s'adapte à l'autre. Et de toute façon, moi, il y a un truc où le retard est plus un problème maintenant parce que on est entre guillemets, même on est adulte. Donc en fait, c'est pas pareil qu'au collège ou au lycée. Tu sais, comme dans Sex Education, quand ils ont tous baisé sauf un, et que c'est trop chelou parce que lui, il a pas baisé, alors qu'en fait, c'est normal, tu vois.
Mais bien sûr. Oui, Sex Education, c'est quand même bien.
C'est, pour moi, ça m'a pas mal représenté ce que l'angoisse que c'était de pas être comme les autres, de ce point de vue-là. Tu sais, c'est pas classe d'avoir fait sa première fois. Tu sais, au lycée, c'est classe. Les mecs, ils sont là, ouais, j'ai pécho, j'ai couché, non. Enfin, chacun son rêve. J'adore quand je vais reparler de lui, c'est mon idée. Mais quand Baptiste, il dit que j'ai fait l'amour à 23 ans, sur scène, enfin, je trouve ça trop beau, ouais. Tu vois,
pas de pression.
Pas de pression.
Pas de pression de virilité. Et en plus, la période tombe bien pour toi parce que, quand même, avec tout ce qui se passe en ce moment sur la déconstruction, j'ai l'impression que les meufs changent de prisme par rapport à ce qu'elles attendent des hommes. Et c'est plus. Enfin, l'époque n'est pas aux forceurs, quoi. L'époque est à ceux qui développent un charme, une capacité d'écoute. Toi, c'est quoi aujourd'hui? Comment est-ce que tu plais aux filles en montant sur scène, en les invitant à ton spectacle?
Non, je peux pas. Alors, pour le coup, j'ai un autre truc qui est l'angoisse de mal faire. Toujours dû à la culpabilité. J'en parle pas mal en ce moment, mais c'est un vrai sujet. Et donc, je me sentirais trop mal qu'un truc se fasse grâce au spectacle. C'est très bizarre, hein, mais je pourrais pas supporter. Comme si éthiquement, c'était pas bien que ça se fasse pas normalement, tu vois. Comme si, et c'est ce qui me fait peur un peu avec la notoriété, avec tous ces trucs-là, c'est que j'ai peur que du coup, je pourrais pas me sentir bien de pas de profiter, parce que c'est, et en même temps si ça arrive à plein de monde très bien, et je suis sûr que ça se passe très bien, et que, mais il y a un truc qui m'angoisse un peu.
Tu voudrais dire que t'aurais peur que ton spectacle fascine ou apitoie une meuf?
Non, fascine. J'ai peur de la fascination. C'est déjà arrivé, hein. Enfin, c'est déjà arrivé à petite échelle, à petit niveau. Mais Timothée me dit, c'est marrant, les regards, mais des filles et des garçons. Enfin, il y a un truc où, pas seulement dans un truc de séduction, mais il me dit, les regards, quand tu sors du spectacle des gens, ils changent un peu. Et c'est normal, tu vois, je viens de monter sur scène pour raconter ma vie. Je peux pas, et ça les a fait marrer, ça les a touchés, ça les a, donc je peux pas nier le fait que ça puisse émouvoir les gens. Mais c'est vrai que moi, je me sens mal à l'idée qu'un truc se fasse parce qu'il y a une admiration. Je peux pas, mais c'est marrant comme du coup, supposons que ça se passe bien et qu'on aille dans le futur et que ça marche de plus en plus, là, il y aura pas d'échappatoire, enfin, de toute façon. Et donc c'est un truc sur lequel il faut que je travaille.
Oui, mais... puis surtout peut-être que toi t'admireras aussi.
Oui, aussi.
Peut-être que tu seras à l'aise avec le fait qu'une fille t'admire si toi t'es capable de l'admirer en retour pour ce qu'elle fait.
C'est vrai. Non, carrément. Tu vois, c'est un peu, je pense à ça, mais bien sûr, je me questionne pas mal en ce moment. Pourquoi tu penses à Qu'est-ce que fait le rapport et l'estime de soi dans une relation face à l'autre? Pourquoi du coup c'est un sujet en fait? Moi je pense que je serais sauvé si j'en avais rien à foutre de moi. Pas dans le sens où j'ai besoin de m'aimer, mais dans le sens où je sais que je peux facilement me dégoûter ou me faire pitié. Mais c'est pas triste, hein, encore une fois, c'est un fait. Mais je crois que si j'existais pas dans une relation à deux dans ma tête, je serais sauvée.
Peut-être que tu vas trouver une fille qui a cette même dualité, en fait, ce monologue intérieur, même sans avoir eu de tumeur enfant, se haïr, être mal dans sa peau, être mal dans son corps, culpabiliser, se demander si on est légitime. En fait, plein de gens le ressentent. Et puis surtout, à la vingtaine, en sortant de l'adolescence, je pense qu'on traverse... Moi, ce que je traversais à ton âge, c'était plus des espèces d'énormes... comment on appelle ça dans les parcs d'attractions?
Les montagnes russes.
Ouais, des montagnes russes.
Des loopings.
Ouais, entre des moments où je m'adorais et des moments où je me détestais, des moments où, tu vois, j'avais envie de défoncer la terre entière, où j'avais envie de, justement, quand j'étais en classe libre et rentre au conservatoire, je voulais être la meilleure, j'avais une ambition totalement démesurée et j'avais en même temps une haine de moi-même, parce que justement quand j'ai raté le conservatoire national, j'ai fait une dépression et j'ai passé tellement de temps à juste m'insulter, tu vois, à avoir un monologue intérieur où je me traitais de conne, de bouffonne, de nullité, de ratée, que j'allais pas y arriver, et tu vois, et en final c'est moi qui étais dure, qui était violente avec moi-même, c'est moi qui me faisais vivre des trucs atroces, c'est moi qui me dis, ah ouais, t'es en classe libre, bah non, pars, va ailleurs, parce que de toute façon c'est de la merde, les trucs que j'avais, la classe libre c'était pas de la merde, donc résultat je me suis retrouvée en Angleterre, tu vois, c'était...
Est-ce que c'était... Parce que moi, je pense qu'il y a aussi un truc où... Je vois très bien quand tu parles sur la haine de soi. Et j'ai l'impression que moi, il y a une sorte d'espèce de complaisance inconsciente où je me dis que forcément...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Comment du coup, il n'y a pas d'échappatoire à cette haine-là envers soi. Enfin, tu vois, il y a un truc où du coup, est-ce qu'à ce moment-là, t'avais... Parce que du coup, t'avais une haine envers toi-même de... Mais c'est aussi une peur de l'échec ou c'est un truc de vraiment de... Ou c'est dû au... C'est hyper intéressant. Parce que...
Je pense que c'est dû à... Quand tu te dis que parfois tu te répugnes, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça. Je crois qu'il y a une espèce de voix intérieure qui est celle de la violence. Alors parfois, il y a plein de raisons différentes. Peut-être que c'est d'avoir eu des pères difficiles aussi. Et donc, résultat, c'est une voix du père qu'on se dit à nous-mêmes, tu vois, ou la peur de décevoir, ou l'impression à l'avance de décevoir, ou une pression que nous, on se met, ou une envie à tout prix de plaire au monde. Il y a plein de choses dans son histoire qui fait qu'il faut réussir à tout prix. Il n'y a pas le choix. Et je pense que c'est dur de sortir de la tragédie. Je pense pour plein de... Tu vois, moi, c'est peut-être des histoires familiales ou l'histoire de là d'où venaient mes parents, mes grands-parents, de cette souffrance-là. Donc, et que résultat, il fallait s'en sortir à tout prix. Donc, j'avais une dureté, tu vois. Et à un moment, tout ça... Enfin, en tout cas, moi, mon expérience, ça explose.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien sûr. Non, je vois très bien. Bah, moi, bah, c'est marrant parce que moi, j'avais ça tout le temps parce que le point de départ est une bombe et une explosion. Parce que, comme la naissance, l'enfance, l'adolescence, tout est anormal. Moi, je pense que la normalité n'existe pas trop parce qu'on est vraiment tous différents. Mais comme c'est pas normal dans le collectif, dans le social, c'est pas normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'aide en cours, quelqu'un qui les traitements que tu prends, moi jusqu'à 5 ans, il y avait quand même des trucs. Moi jusqu'à 18 ans, pardon, 8 ans, pardon, j'ai fait des IRM pour voir si ça revenait pas. Et quand j'étais complètement guéri, j'étais même pas arrivé à voir la lumière au bout du tunnel parce que j'étais quand même avec des traitements. Et donc, c'est d'où le c'est bientôt fini, justement. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, il faut l'accepter pour être en apaisement avec ça. Parce que sinon, ça devient une souffrance. Et je pense que du coup, ça a joué dans le regard de soi. Ça a joué, si on passe sa vie à avoir la preuve qu'on n'est pas comme les autres et qu'on a un boulet accroché au pied, et je pense même pas aux gens qui... Parce que moi, encore une fois, c'est ce que je dis dans le spectacle, je m'en suis très bien sorti. Donc.
T'es guéri?
Oui, voilà, complètement. Non, mais depuis très longtemps, depuis mes 8 ans. Donc, en fait, il y a un moment où...
T'as toute ta tête, tu
impeccable.
Parce que les syndromes cérébelleux, ça peut avoir d'autres.
Ouais. Ça peut être dur. Moi, je sais que j'ai des témoignages de gens qui sont, même que moi, qui sont devenus aveugles, des gens qui sont devenus autistes, des gens qui. Enfin, si tu veux, c'est énorme.
Oui, puis surtout, en fait, finalement, l'écueil. C'est de chercher une quelconque normalité. Mais ça, est-ce que peut-être que c'est une question d'époque ou de système français?
Je pense.
Parce que tu vois, aujourd'hui, justement, je pense que c'est moins, il y a moins cette pression de vouloir rentrer dans le moule. Je crois qu'on laisse un peu plus de portes à des profils atypiques, neuroatypiques.
Mais même dans les acteurs français, tout. Enfin, quand je vois des Raphaël Quenard, des mecs que j'adore, qui me passionnent, où je me dis putain, mais des personnages, des gens qui sont. Ouais, qui sont pas dans la. Tu vois, qui sont pas dans la norme. En fait, c'est ça que j'adore, mais c'est ce que j'aime aussi avec la virilité masculine qui pour moi n'existe plus comme elle existait avant. Et c'est pour ça que je suis fan des mecs comme The Rock et Schwarzenegger, parce qu'ils me passionnent de voir à quel point ils sont pas dans leur temps et à quel point, en même temps, ils peuvent se permettre parfois de l'autodérision et de la... Moins The Rock, je pense, que d'autres. Mais en tout cas, tu vois, ce truc-là de... Aujourd'hui, est-ce que la virilité, c'est pas... Juste un mec qui connaît ses sentiments, un mec qui comprend les femmes, un mec qui... Enfin, tu vois, comme en fait, finalement, aujourd'hui, c'est... Être un mec musclé avec une grosse bite, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et ça me passionne, justement. C'est pour ça que je suis aussi épanoui, je pense, aujourd'hui aussi. Parce que pouvoir crier sur scène que c'est pas grave et que c'est cool, même, à des moments, c'est beau, tu vois. Moi, je suis fan des films de John Hughes. Bon, Ferris Bueller est très très beau, mais le reste, tu sais, des mecs qu'on prend et qu'on met qui sont hors case et qu'on met au devant de la scène parce qu'ils sont différents. Et tu vois, moi, Freaks and Geeks de Judd Apatow, enfin, tu sais, tout ces. Je suis très culture américaine. Mais...
Oui, mais c'est normal. C'est parce que culture américaine, c'est ce qui te sauve quand justement tu as un sentiment de différence. Ouais. Moi aussi, c'est parce que c'est les premiers à parlé, analysé et fait quelque chose de l'autisme alors que c'était totalement caché en France. Ouais. C'est eux qui ont mis les Asperger sur le devant de la scène. Enfin, même s'il ne faut plus dire Asperger, c'est eux qui.
Il ne faut plus dire.
Je pense, non, à cause du créateur d'Asperger qui était problématique. Mais, mais en tout cas, c'est sûr que tout ce qui est maladie rare, ça vient des États-Unis. Donc forcément, il y a un truc où en fait, aux États-Unis, quand t'as une différence, t'es plutôt élu au rang de Dieu qu'au rang de paria, en fait. C'est que t'as été touché par la grâce, c'est qu'en fait, au contraire...
Tu t'en es sorti, t'as...
Ouais, c'est la success story, et puis en plus, c'est le culte limite de la différence dans laquelle, peut-être même dans laquelle il faut pas trop se dorloter ou se complaire, tu vois. Mais je pense que c'est les séries qu'ils ont faites dessus, et puis ouais, il y a vraiment un truc, et même tout l'humour américain... C'est un humour de faire de sa vulnérabilité, de sa fragilité, bien une sûr. Force, de faire...
Et moi, je me souviens de mon premier visionnage de Jack. Tu as vu Jack de Coppola ?
Non.
C'est Robin Williams, qui est une sorte de Benjamin Button, mais à l'envers. Il naît très vieux, et plus il grandit, plus il rajeunit. Et c'est assez émouvant, parce que le personnage devient de plus en plus un enfant. Mais il grandit. Et donc, il a 40 ans et il est perdu. Parce que physiquement, il a 40 ans, mais en même temps, il a 8 ans dans sa tête. Donc, il drague sa maîtresse. Mais en même temps, c'est une sublime où il dit à sa maîtresse, on pourrait aller au cinéma ensemble. Et en fait, tu sens qu'il tombe amoureux. Parce que pour lui, c'est les mêmes âges, c'est les mêmes générations. C'est les mêmes... Et en même temps, elle le rassure en disant, mais je suis désolée, c'est pas... Enfin, tu vois, t'as 8 ans. Et c'est hyper beau de ce que ça raconte sur l'autisme aussi. Parce que c'est un film...
Ouais.
Et c'est trop beau.
T'as vu Rushmore de Wes Anderson?
J'adore.
Moi aussi, un ado qui tombe amoureux de sa prof. C'est tellement beau. Et lui aussi, il est totalement.
En conflit avec Bill Murray.
Ouais, et puis à part et seul. Enfin.
Ouais, carrément. Carrément. Bah, justement, les gens qu'on met sur le devant de la scène alors qu'ils sont ailleurs, tu vois. On parlait de Sex Education. Pour moi, c'est le personnage d'Eric dans Sex Education. Il a une complexité qui est passionnante parce que le mec, il est mais partout et nulle part. Et il est complètement serein avec lui. C'est-à-dire qu'il est rassurant, il est présent, il est là. Mais il est face au danger de la vie et face auquel il ne peut rien faire non plus. Donc c'est... Et il passe la série à se chercher. Et c'est passionnant. Alors là, c'est l'homosexualité, mais ça peut être aussi plein de trucs, en fait. Aujourd'hui, ça peut être plein de sujets. Et je trouve ça passionnant. Et je trouve que l'école résonne vraiment bien. Parce que quand on voit aujourd'hui à la fois les conflits, j'imagine, je ne veux pas me permettre parce que je ne suis pas assez calé du tout, mais les différentes problématiques d'adultes et du monde, en fait, ça se reflète parfaitement avec le collège et le lycée, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si différent, les rapports de force, les rapports de... Enfin, moi, c'est marrant comme je fais des échos entre comment on est quand on est au lycée et au collège et comment on est dans la vie d'adulte. Il y a des trucs où on est plus mature, il y a des trucs qui bougent pas, en fait. Et
les trucs qui bougent pas, c'est quand même ce truc de réputation, de cote, d'avoir la cote, d'avoir en fait la pression d'appartenir à une bande.
Carrément.
Elle peut aussi durer à l'âge adulte parce que t'as envie d'être avec les populaires. Il y a ce truc avec les réseaux sociaux qui rend un peu fou.
Tellement. Les réseaux sociaux, c'est le collège.
C'est vraiment le collège, quoi. Ouais. Et moi, j'ai ça parfois. Je suis en mode, mais est-ce que machin m'aime bien? Et est-ce que j'ai eu assez de likes? Et pourquoi j'ai ce commentaire? Et ça, personne ne l'a vu.
On ne parle même pas. Je suis à 9 heures de téléphone par jour, enfin par semaine. C'est un truc où l'addiction.
Ça, c'est très dur de se sortir de ça.
C'est une spirale infernale. Pour moi, c'est vraiment. Ma mère qui disait ça, c'est la nouvelle clope. C'est un truc où tu.
Ouais, c'est vrai, c'est la nouvelle clope. Et parfois, moi, ça me ramène dans des sentiments de petite fille ingrate, de trucs de solitude. Moi, parfois, je me dis, oh là là, dis donc, oh, mais ils sont tous amis, ils ont tous des amis, mais il n'y a que moi qui n'ai pas d'amis.
Mais comment ils se connaissent? Pourquoi ils étaient en soirée?
Ah ouais, ils sont tous amis, alors. Mais c'est juste Insta, quoi.
Et en même temps, ça, moi, je trouve un peu sa vertu comme plein de choses, où il y a les deux. Par exemple, moi, j'ai fait un shooting maquillé il y a quelques jours, avec ma meilleure amie, et je me dis, putain, j'avais envie de le faire, tu vois. Moi, je suis pas du tout... Je suis quand même pas mal hétéronormé aussi, dans ce que je représente, et je me suis dit, j'ai envie de le poster, mais j'ai peur des réactions, tu vois, j'ai peur de ce que les gens vont dire, vont penser, vont liker, vont pas liker, vont truc. Et tu vois, tu postes un truc, tu l'enlèves, et tu, en fait, tu machin, et...
T'avais peur de te trouver beau ?
Ouais. Ou non, pas de me trouver beau, parce que ça, ça va. J'avais peur que les gens me trouvent moche. C'est bizarre, hein. C'est un truc d'enfantin, parce que foncièrement, je sais que les photos sont classes et...
Ouais, elles sont très classes.
Et je vais les poster, j'ai hyper envie, et c'est dans mon but, tu vois. Mais ça reste des photos sur Instagram, donc est-ce que c'est de la vraie valeur ? Qu'est-ce que ça représente ? Et en même temps, je me représente maquillée, donc j'ai envie de montrer qu'en fait, on peut aussi être maquillée. Enfin, tu vois, c'est...
C'est génial. Alors, pour ça... Je pense que ça veut dire qu'il faut que tu fasses encore plus de photos. C'est que c'est le début. Si tu te poses ces questions, moi, c'est Yacine Bellous qui m'avait donné un bon conseil. Un jour, on avait pris un café, je lui avais posé beaucoup de questions après une scène à lui. Je lui avais dit, Yacine, je comprends pas. Tout le monde me reproche de parler de cul, de faire des blagues de cul. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'arrête de faire des blagues de cul ? Il m'avait dit, si ça revient comme ça, c'est que t'en fais pas encore assez.
Ah, c'est bien. C'est un
et bon en coup, fait, ouais. Et en fait, j'ai suivi ce conseil et j'y suis allée à fond, à fond. À fond, tu vois, jusqu'à faire une émission sur YouTube où je regardais du porno ouais, avec des invités, tu vois, ouais, vraiment, donc tu vois, c'était... Et une fois que jusque-là, j'ai pu arrêter, et maintenant on m'en parle plus, et je peux faire des chroniques sur les éléphants blancs. Mais parce qu'il fallait... Je pense que toi, peut-être, t'as besoin de passer par une phase où c'est pas un shooting photo, c'est 15 shooting photos.
Ouais, c'est possible.
Peut-être qu'il faut que tu...
Enfin, là, c'est les photos, mais c'est un exemple parmi mille autres, bien sûr.
Mais de toute façon, toute ta vie, il faudra que tu te questionnes, et tu travailles, et tu joues avec ton image... que tu te demandes... Et que
sur
tu...
le comédien, parce que je suis quand même comédien, et en fait, tu vois, et la scène m'a permis de me dire que c'était un truc que je voulais et que j'aimais faire, et que je crois que je savais faire, aussi.
Et que tu t'interdisais avant, c'est
et
ça
que je m'interdisais énormément avant. Mais parce que moi, mon père passe sa vie à me dire que être acteur, c'était pas bien. Et du coup, moi, j'avais en tête qu'être acteur, c'était pas bien. Tu as critiqué, à penser que... Le jeu. Alors en fait,
c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il disait pas ça pour t'éviter de la souffrance ?
Bien sûr, je pense. Je pense que lui a beaucoup souffert en l'étant. Je pense qu'il y a un truc aussi où du coup il a transmis peut-être une protection. Mais c'est toujours pareil, c'est de la maladresse, je pense. Mais c'est de la maladresse violente du coup. Mmh. Parce que forcément, tu te mets à souffrir et c'est pas le but. Et c'est pour ça que moi je fais hyper attention à quand je dis un truc, quand je prends mes. Peut-être trop de pincettes, justement, mais dans les conseils, dans la manière que... Ça... En fait, il ne faut pas oublier que ça ne nous regarde pas aussi. Moi, Timothée, souvent, il me dit, mec, ce n'est pas mes histoires, c'est ta vie. Je trouve que c'est brillant à quel point il arrive à se sentir à l'aise avec la frontière de là, c'est trop, là, c'est pas trop. Et lui, il me dit, mec, c'est pas mes affaires, c'est toi qui décides, j'en sais rien. Et je crois que ça m'aide vachement. De ne pas oublier qu'en fait, les gens sont... Et parce qu'il faut aussi que je décide par moi-même un jour. Couper le cordon avec la mer, réussir à... Enfin, tu vois.
Couper le cordon avec la mer, waouh, c'est le projet du film. C'est difficile.
Mais là, moi, je me rends compte que c'est ma mère qui va devoir couper le cordon ouais. avec moi dans pas longtemps. Attention, c'est un peu une ado et elle est très marrante et elle me touche profondément. Mais on m'envoie des emojis avec des têtes de partout. Elle est marrante là-dessus, mais c'est vrai que c'est un truc énorme. Parce que je suis très proche d'elle. Très, 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 très proche d'elle.
Je l'ai vue, j'étais là le soir où je suis venue te voir. Elle revenait te voir jouer. Ouais.
C'était mon anniversaire, ouais. C'est ça ?
Ouais.
Excellent.
Ouais. Moi aussi, j'adore ma mère, mais attention, parce que, en fait, même si elles sont adorables, c'est aussi un amour. C'est pas que c'est un amour étouffant, c'est que tu vois, quand tu parles de ta proportion à culpabiliser,
ouais.
Moi aussi, j'ai énormément de culpabilité. Et pour le coup, tu vois, c'est pas spécialement lié à mon père ou à la colère ou parfois. Ou les fois où il peut me faire sentir jamais assez. Donc ça, il y a un truc, mais quelque part, qui est presque plus facile à intellectualiser. Ce qui est plus dur, c'est les vagues d'angoisse où je me mets à me sentir coupable, coupable, coupable. Et en fait...
Et tu ressasses.
Oui, mais ça, c'est peut-être dû aussi au fait d'une trop grande pression. Et ça, c'est parfois plus lié à la mère qu'au père.
Bien sûr, bien sûr.
Mais et c'est compliqué parce que c'est pas des bien reproches sûr. Que tu peux formuler quand il y a juste de l'amour. Mais...
Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, elle est pas là tout le temps parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de vivre aussi par moi-même. Mais c'est dur de voir, et moi d'autant plus, parce que, et c'est pour ça que j'ai fait de la scène, je pense aussi. C'est pour me détacher d'elle. Ce qu'on m'a rabassé. Parce que l'autre truc qui était particulier, c'est le film. Quand j'étais au collège, où ça s'est mis à se sortir pile au moment du collège. Et ça s'est mis un peu à se démocratiser. Et les gens sont mis à être au courant d'une histoire que je maîtrisais même pas moi. Et donc c'était violent en fait. Et je pense que j'ai eu besoin de faire de la scène aussi pour m'émanciper de ce truc-là. Et qu'on arrête de me parler de cette histoire-là, qui est en fait l'histoire de ma mère, que je respecte à des milliards de pourcents.
Mais qui est la sienne.
Mais qui est la sienne en fait. Et je pense que pareil, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir joué dedans, par exemple. J'étais petit, je savais pas, mais c'est son histoire, c'est sa vie. Et aujourd'hui, il faut que je m'émancipe. Et c'est une manière aussi d'avoir coupé le cordon que d'avoir fait de la scène. Les planètes se sont alignées. Et d'ailleurs, elle est extrêmement fière comme une mère. Mais vraiment, elle est hyper émue et elle est trop contente. Et c'est marrant, elle met un commentaire à chaque publication avec 14 smileys. Et je lui dis, maman, t'es pas obligée de mettre à chaque fois des commentaires. Elle me dit, mais si, mais je suis fière, t'es mon fils.
Ouais.
Et je sais pas comment ça marche. Et donc les gens vont voir les deux noms partout. C'est mignon, c'est mignon. En vrai, c'est mignon. Elle est trop mignonne. Et parfois, même, c'est moi qui me mets à la, maintenant à la rassurer, à l'aider. Parce qu'on arrive à des âges où je suis de plus en plus adulte. Et donc forcément, il faut que. À des moments, elle est un peu perdue, tu vois. C'est normal, elle a 3 enfants. Des choses à gérer. Et je trouve, mais je crois que je suis heureux parce que le rapport avec ma mère est très sain aujourd'hui. On arrive à s'engueuler et quand on s'engueule, après on rigole parce qu'on s'est engueulé. Mais on s'engueule vraiment pour des trucs importants et des fois, et surtout, je me permets de lui dire. C'est rare de. J'ai mis très longtemps avant de pouvoir dire les choses. Frontalement.
T'as raison, c'est vrai, ben ça tu vois, c'est toi qui me l'apprends aujourd'hui. En fait, c'est vrai que le rapport avec la mère devient sain quand on peut s'engueuler.
Ouais.
Moi, je crois que j'aurais trop peur de m'engueuler avec elle, j'aurais tellement peur de lui faire de la peine, tellement peur.
Moi, ma mère, j'ai eu des. Mais putain, je m'identifie tellement parce que moi, non mais c'est vrai, moi, ma mère, quand j'étais petit, qu'elle m'offrait un truc, ça partait d'un stylo en cours à une montre à l'anniversaire. Je pleurais si ou j'étais un peu déçu du cadeau. Où le stylo était perdu ou un peu éraflé. Je pleurais. J'étais parce que j'avais de la culpabilité pour elle, envers elle, et je me sentais tellement mal que dès qu'elle m'offrait un truc, il fallait que ce soit encadré, mis les boîtes des cadeaux. Non mais
que le cadeau c'était pour elle en fait.
Que le cadeau c'était pour elle et qu'il fallait que je protège le cadeau. C'était fou. Et les stylos en classe et tout. Moi, j'ai failli surtout pas me demander une gomme. C'était si tu veux, j'exagère évidemment.
Mais les cadeaux que ta mère t'avait fait.
Et un jour, elle m'a offert une montre et j'étais un peu déçu. Aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai encore des frissons. Je suis passé à autre chose. Mm-hmm. Mais de pleurs, de pourquoi j'ai pas adoré le cadeau. Tu vois, j'avais 10 piges, on s'en fout, tu vois. Ça arrive à tout le monde de pas aimer un cadeau. J'en ai pleuré. Des larmes. C'était une montre stylée en plus, je sais même pas pourquoi ça m'a. Mais je me suis dit, je sais pas lire l'heure, c'est chiant. Tu sais, il y avait une partie en moi naturelle, tu vois, qui.
Moi, j'ai jamais su lire l'heure sur les montres.
Ouais, c'est chiant, c'est infernal.
Ouais, mais il y a des trucs comme ça sur lesquels c'est des gros blocages, des trucs de débilité profonde.
Mais c'est pas de la débilité, hein.
Ah.
C'est profondément compliqué, les aiguilles. Non, c'est pas.
Moi, je peux pas lire l'heure sur une montre s'il n'y a pas les chiffres. Ouais, j'ai jamais essayé, je sais
mais
que.
Moi, j'aime aller plus loin, je compte avec mes doigts.
Ah mais moi aussi je compte avec
mais
mes doigts.
Il y a pas de honte.
Ah ouais, moi je compte avec pas. Je sais pas. Moi je compte avec mes doigts. Je peux pas. Tu me demandes une soustraction simple, je ne sais pas la faire.
Ouais, moi
impossible.
Une addition. Hein.
Ouais même.
Ah, moi
addition.
Ça dépasse 10,
et
c'est compliqué.
Division, laisse tomber. Ouais.
Non, des fois je peux pas. Des fois j'ai un truc où je fais. Ah mais oui, il y a 45 mois, je sais plus combien. Ça fait,
ah
fais,
bah putain. Bravo. Ah non moi ça.
Mais ça arrive
pas.
Une fois sur 10 hein, et je fais waouh. Wow. J'ai compté super vite. Alors qu'en fait c'est très simple. Mais j'ai plus.
Non, moi je suis juste contente d'avoir le sens de l'orientation. C'est le seul truc un peu pas trop littéraire et je me dis tiens j'ai quand même ça dans ma sacoche.
J'ai acquéri ça, moi, pendant très longtemps j'ai eu des.
C'est mais... fou comme c'est stressant quand t'es gamin d'ailleurs, ouais. De devoir lire l'heure et t'as l'impression que tous les autres savent le faire et toi tu fais semblant et en espérant que ça tombe juste.
Mais moi j'ai plus honte, hein. Enfin maintenant, voire même, tu vois, je me dis au pire je le dirai sur scène et c'est marrant, tu vois. Enfin il y a un truc où. Ouais, pas savoir lire l'heure, compter sur ses doigts.
Bah quand même, moi avec mon copain, parfois, quand je lui demande un truc, je sais pas, pour calculer, tu vois, je lui demande, maintenant j'essaye de calculer, je fais des factures, donc j'essaye de calculer la TVA.
Ouais.
Donc je lui demande, ça fait combien 20% de 130 ? Et je vois quand même dans ses yeux un truc où il me dit, tu sais pas le faire, Rosa, le pourcentage ? Je fais, non, je ne pourrais, si je vais pas sur Internet, je pourrais pas faire le pourcentage. Mais il me juge pas, mais je sens quand même que c'est des truc assez simple que les gens arrivent à faire d'eux-mêmes, tu vois.
Moi, vraiment, tu me parles une autre langue, je ne sais pas. Déjà TBA, j'ai arrêté de. Non, je vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai ça avec la géographie. Et je me suis engueulé avec un pote. On était en vacances aux États-Unis et il me parle de la Terre et du globe et tout. Et j'ai bugué sur un truc et il a pété un câble. C'est pas très sain. Il a pété un câble parce que j'arrivais pas à comprendre. Un truc sur le placement de comment la Terre tourne. Je sais qu'elle tourne.
Ouais.
Le système solaire, ça va. Mais après, quand ça va au-delà, il y avait un truc de géographie. Et il a pété un câble. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Il comprend pas que je bloque. Mais c'est pas que c'est simple ou pas simple. C'est juste que je bloque, tu vois. Et que j'ai besoin de... Et c'est compliqué. C'est vrai que j'ai des trucs où ça bug. Mmh. Je bug. J'ai des explications, j'ai besoin quatre fois qu'on m'explique. Souvent dans les réunions, on peut répéter, s'il vous plaît. Je pense que c'est un peu dû au Micmac qui s'est passé. Mais au Big Mac, non, non, mais tu vois, il y a un truc où je sais que ça peut, que les gens n'ont pas forcément cette conscience là. C'est pour ça que j'ai plus honte, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience que nous, c'est pas, ça veut pas dire grand chose en fait. Ça veut juste dire que tu sais pas lire l'air, et au pire, tu vois, c'est ouais. Surtout social, enfin en
oui,
vrai.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est social, c'est social.
Vois, c'est à la limite. Enfin moi, j'ai vraiment un truc où moi, quand on me dit je vais éviter le film, je vais machin, trop bien, tu vas pouvoir le voir. J'ai
non,
pas un truc
sûr.
Que je juge. Enfin, ça me paraît tellement. Après, c'est justement parce que je pense que j'ai des failles, que j'accepte plus les failles des autres. Mais j'ai un peu un truc où. Enfin, en fait, moi, après toute ma vie, tu sais, quand on est à la plage ou dans le désert, il faut que je mette des lunettes spéciales parce qu'il faut pas que ça rentre dans l'œil. En fait, j'ai tellement grandi avec des trucs que je devais faire que maintenant, quand il y a un bug ou un truc, je suis très indulgent là-dessus.
Ouais.
Sauf en vélo. En vélo,
tu cries sur les gens.
Tu vois la vidéo de Freddy Gladieux ? Moi,
oui.
C'est moi. C'est moi, mes premiers degrés. J'ai un truc où c'est le seul moment où je. Mais c'est peut-être. Ça veut raconter quelque chose, justement. Ce mec de Versailles, que là. C'est peut-être qu'il y a d'autres trucs à gérer, mais.
Je vais passer aux questions du questionnaire de Proust.
Tu parles beaucoup.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
La loyauté en amitié.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
L'humour.
Le principal trait de ton caractère ?
L'indulgence, je dirais. Mais c'est pas... Ouais, l'indulgence.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Leur générosité.
Ton principal défaut ?
Je bloque trop sur des trucs. Je suis trop...
Obsessionnel ?
Ouais, je suis très obsessionnel. Sur certains trucs, où je bloque. Et la culpabilité, enfin surtout... Enfin, ça va ensemble, en fait. C'est que j'ai un truc où... Je bloque parce que je culpabilise, donc je bloque parce que j'ai besoin d'avoir... Tu vois, j'ai des tocs de... Je m'excuse, on me dit arrête, et je me réexcuse, et on me dit arrête, et je deviens obsessionnel de ça parce que j'ai mal dit je m'excuse. Et en fait, du coup, tu vois, je ferme 10 fois ma porte, je ferme... Franchement, je perds 2 à 3 minutes, montre en main chaque jour, parce que je ferme ma porte.
Mmh. Ah, tu veux dire ça, c'est les tocs, tu veux dire
ouais,
pour vérifier que ta porte est fermée. Ouais, des petits tocs comme ça.
Et ça va avec... parce que ça va des portes, aux relations où je vérifie tout le temps que enfin, je suis un peu, tu vois.
Mais quand tu dis pardon, tu dis est-ce que tu m'aimes, hein, c'est ça que tu demandes. Tu te demandes pas pardon, si tu
ouais,
demandes à
est-ce
la personne si elle t'apprécie,
est-ce que j'ai fait du mal, ça va, je t'ai pas gêné, ma plus grande phrase, mon prochain spectacle, je t'ai pas gêné, c'est un truc où je
t'ai pas gêné, c'est dis-moi que je te gêne pas.
Ouais. Ouais, peut-être. Ah, copain, peut-être.
Mais évidemment.
Ah, mais c'est sûr. Attends, tu viens sûrement d'ouvrir une des plus grandes portes. De mon. Ah, putain, ouf. Putain, c'est ça, mais c'est sûr. Mais oui, j'ai trop peur de pas être aimé.
C'est sûr.
C'est sûr. Mais ça va aussi avec la culpabilité. Enfin, bref. Ouais, mais c'est pour ça que je mets ça sur le compte de l'obsession aussi, parce que c'est.
Il y a une culpabilité profonde, et ça, je pense, c'est lié au maire. Mais ensuite, le fait de dire pardon, j'avais un petit copain, Johan, qui était comme ça. On révisait des scènes de théâtre ensemble, il disait ah non, pardon. C'était. Il ne me demandait pas pardon de rien. Il me voulait juste être sûr que je le regarde, que je l'écoute, que je sois là. Il fallait beaucoup le rassurer. Je suis tout à toi, Johan, je te regarde.
C'était épuisant, quoi.
Ouais, c'était épuisant.
Moi, j'ai dit
ma soeur,
ta gueule, casse-toi.
Ouais.
Ah, t'es chiant, bon, c'est bon. quand j'étais petit, c'était d'autant plus parce que je répétais les phrases. Parce que dans ma tête, j'avais pas bien dit la phrase. Donc je répétais les phrases. Les gens vont me prendre pour un fou.
Non.
Mais j'ai travaillé là-dessus.
Mais t'es plus petit. Il
ouais,
a dû certainement
petit.
Avoir des choses que t'as fait petit qui sont très très différentes aujourd'hui.
Ouais.
Peut-être que certainement, en effet, petit, t'étais pas sûr vraiment d'avoir dit la bonne phrase.
Ouais, c'est possible.
Mais aujourd'hui, c'est pas même Gabriel.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr. Putain, je réfléchis à. Ça m'intéresse. Non, c'est vrai que. Parce que j'oublie que j'ai peur de pas être aimé des fois. Alors que je suis sur scène toutes les semaines devant.
Et ça, c'est incroyable.
Une salle. Enfin, tu vois. C'est... Mais ça me rassure. Si c'était complètement l'inverse, j'espère que mes potes seront là pour me dire « Mec, tu commences un peu à vriller. » Le jour où je m'excuse plus, de la mauvaise façon, c'est-à-dire que le jour où j'ai... Parce que si je suis apaisé et que j'arrive à... Tu vois.
Mais ça va s'apaiser dans le travail.
Je pense.
Tu parles de ton syndrome d'imposteur. Moi, j'ai ça aussi parfois. Et la seule manière que j'ai de me calmer, c'est de dire dans le travail.
Ouais.
Tu vois, la semaine dernière, j'ai été prise de jalousie totale pour une meuf, tu vois. J'ai commencé à faire une fixette et j'ai commencé à me persuader que ça y est, j'étais ringarde, que de toute façon, que j'étais qu'une connasse d'hétéro qui veut des gamins, qui approche les 35 ans et que mon succès était derrière moi, la période du célibat, du féminisme et que maintenant, je me compromets avec les mecs. Bref, je suis rentrée dans des délires où je me suis dit, le prochain spectacle que j'écris, qui va venir, enfin, tu vois, et en fait, je me suis dit, et la seule manière de me rassurer, de me dire, c'était de me dire, je travaillerai et je ferai en sorte que les blagues soient drôles. Voilà. Et tant pis, ça sera peut-être des blagues de meuf hétéro de 35 ans qui veut des gamins, mais si c'est...
Ce qui est relativement jeune...
Et puis peut-être que 2-3 personnes s'identifieront, mais et j'espère des personnes larges, mais le seul truc, tu vois, si toi tu te dis... j'espère que je vais pas changer ou que je vais pas m'habituer à cette chance que j'ai de jouer toutes les semaines. Mais je pense que c'est pas en t'excusant que tu auras moins ce syndrome. Ce syndrome, c'est si tu te réfugies dans le travail, c'est que là où source d'apaisement, de se dire parce que c'est remplacé par de la raison, des émotions. Tu vois, moi quand je me dis, tu vois, au tête de l'atelier, j'ai fait une exceptionnelle et puis j'étais pas satisfaite de mes tests et tout machin. Puis je me suis dit, pour me consoler, je me suis dit, t'as fait une prise de risque, t'as écrit des blagues l'après-midi.
Exceptionnelle, c'est
juste une date, tu vois.
Oui,
et résultat, j'essaye parfois juste pour une date d'écrire des blagues juste pour la date. Puis j'étais pas forcément contente des. Mais je me dis, en même temps, j'ai créé des circonstances pour cette mise en danger.
T'as les deux petits personnages qui
Voilà, c'est ça. Exactement. Et j'ai un monologue intérieur qui est toujours comme à 20 ans, parfois quand même pas très sympathique envers moi-même. Mais j'essaye de lui répondre une voix. Et en fait, en général, parfois aussi, l'un des trucs, tu verras que peut-être dans ta vie, tu reviendras au documentaire.
C'est possible, c'est très possible. Mais c'est marrant comme je joue avec le réel en ce moment. Donc en fait, ça va pas servir à rien.
Oui, et puis tu regarderas les autres aussi, parce que moi, finalement, ce qui m'a sorti de ces moments d'auto-détestation, d'auto-amour, c'était le podcast, en fait. Parce que c'est tellement d'énergie à aller regarder les autres, à lire sur eux, à m'intéresser, à penser à eux, que quel soulagement. Ensuite, t'es plus sur toi.
J'aime beaucoup, non, mais c'est vrai. Mais surtout dans le négatif comme dans le positif. Après, moi, dans tout ça, il y a un autre truc qui me rassure et qui m'angoisse aussi, mais c'est le temps. Et moi, je dis souvent que je suis au début du début, là. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc où. C'est-à-dire que là, il y a tellement encore. Mais je pense, enfin, moi, je vois même ça pour toi aussi. Je me dis, ça reste. On a tellement fait. C'est-à-dire, moi, je me dis, j'ai tellement vécu. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies, mais j'ai 22 ans. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai angoissé parce que j'allais avoir 21, et j'ai angoissé parce que j'allais avoir 22. Et en fait. Je suis au début du début et ça me rassure.
Moi, ce qui me rassure, c'est que tout est un exercice. Je me dis, au début, t'es toujours nul. Moi, je me souviens, au début du podcast, je faisais plein d'erreurs que je fais plus aujourd'hui parce que c'était le début. Au début, quand je faisais commencer les premières scènes de stand-up, je faisais des blagues. Mon Dieu, heureusement, Dieu du ciel, je fais plus aujourd'hui. Et puis parfois, quand je regarde mes chroniques sur Inter ou sur Quotidien et que je les trouve nulles, je me dis, ouais, mais Rosa, c'est pas grave, c'est le début. C'est le début. Après bien tout, j'avais jamais fait avant ça. Donc, c'est le seul... Faut bien apprendre. En fait, c'est l'effort au final qui rend heureux.
C'est carrément.
Tu vois, je viens de surmonter un effort, je peux profiter d'un moment de bonheur.
Même dans le relationnel, ma mère me disait la générosité, c'est c'est pas forcément faire ce qui te plaît. C'est quand tu es gentil avec quelqu'un ou quand tu. Moi, ça m'a vachement appris.
Exactement, ouais.
Elle m'a beaucoup dit dans ma vie le être vraiment généreux, c'est forcément enlever un peu de notre envie à nous.
C'est clair. Et puis, il faut se forcer. Moi, je suis très égoïste, hein. Je vois mon copain, il est tellement plus généreux que moi sur certains trucs. Hey. Quand à chaque fois, je sais pas si j'ai une chronique à écrire sur France Inter, je lui dis, je peux te la lire. Et il dit toujours oui, même s'il est en train de faire autre chose, etc. Bien. Je l'interromps en plein d'un truc, il dit oui, oui. Puis il a les yeux. Alors que moi,
il a envie. J'imagine. Ouais. Enfin,
oui, mais moi, j'ai pas cette générosité. Parfois, il vient et me dit, oh, je peux te montrer, je me suis filmé à mon plateau. Et si moi, je vais te dire, je suis en train d'écrire l'intro de mon podcast, je suis en mode, non, pas maintenant.
Je
suis pas aussi gentille que lui. Il est plus disponible, quoi.
Moi, je suis un peu comme ça. Moi, si quelqu'un me demande un truc, j'écoute. Comme je suis peut-être en l'air, j'oublie un peu. En fait, je pense. Ouais, mais après, c'est aussi.
Non, moi, je lui dis, alors, prenons le temps, faisons le bien, maintenant faisons ton truc, maintenant faisons le mien. J'essaye de faire comme la charge mentale, j'essaye de faire un truc de Titou Lecoq, c'est la répartition de l'argent et du temps de créativité dans le couple.
Le camembert, là, où tu
ouais, mais pour le moment, c'est lui qui me donne plus de temps que moi, je lui en donne, tu vois.
Ok. Mais c'est parce qu'il t'aime.
Oui. Ton idée du bonheur, Gabriel?
Franchement, je suis pas loin. Hein. Les gens que j'aime autour de moi... et être libre avec les gens que j'aime autour de moi. Après, le travail, les films, les choses qu'on aime, ça vient en plus, mais être libre avec les gens autour de moi, que j'aime.
Ton plus grand malheur, quel serait ton plus grand malheur ?
Que je sois plus entouré par les gens que j'aime.
Où aimerais-tu vivre ?
En Italie.
Comment aimerais-tu mourir ?
Dans un film que j'ai écrit, mon personnage, il mourait de rire. Vieux de ouf, mais il éclatait de rire et ça le... Un jour, je me suis réveillé de rire. J'ai rêvé et mon cousin, mon grand frère, m'a fait rire dans le film. Dans le rêve, t'as vu, le plus dans le rêve. Il m'a fait mourir de rire et je me suis réveillé en éclatant de rire. C'était probablement la plus incroyable des sensations que j'ai vécues dans ma vie, physiquement. Et je crois que j'aurais mourir de rire à 150 ans.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Je suis de plus en plus apaisé. Apaisé de pouvoir dire des trucs et qu'on m'écoute, finalement. Et là, la boucle est bouclée.
Merci, Gabriel.
Ben, merci à toi, merci beaucoup.
Et voilà, c'était le très attachant Gabriel Donzelli à retrouver à la Scala du 8 février au 22 juin, les jeudis à 19h30 dans C'est bientôt fini. J'espère que cet épisode vous a plu. À un moment, je parle du terme Asperger. J'ai vérifié et en effet, ça se dit plus trop. Entre autres parce qu'on a découvert que Hans Asperger avait collaboré avec le régime nazi. Et aussi parce que certains réfutent l'idée de bons et de mauvais autistes. Mais c'est encore un autre sujet, un autre podcast. Pour finir, je vous recommande la lecture de futurs invités du podcast. Et je vous spoil, histoire que vous fassiez un peu vos devoirs avant que les épisodes ne sortent. On va recevoir Océan et je vous invite à lire son essai autobiographique Dans la cage ainsi qu'à découvrir sa série documentaire sur France TV/ qui porte son nom. Et normalement, on devrait recevoir l'écrivaine Valérie Zenati pour son livre Qui vive. N'hésitez pas à le mettre sur votre table de chevet. Je fais jamais ça, hein, par superstition, je donne jamais le nom à l'avance d'invités, encore moins des invités que j'ai pas encore enregistrés, mais là le rendez-vous est calé et je suis dans un mood confiant en cette rentrée 2024. Enfin, il va nous falloir beaucoup d'humour avec ce nouveau gouvernement et Rachida Dati à la culture, mais j'y crois, l'amour vaincra. On va s'en sortir, je vous embrasse bien fort.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.